quatrième de couverture. Une émission proposée et animée par Christine Baron.
Et voilà, c'est l'été, les vacances. Des vacances bienvenues après la drôle d'année qu'on a tous traversée vaille que vaille. Et traditionnellement, l'été, on appuie sur pause. Vacances ici ou ailleurs, pas besoin d'aller très loin d'ailleurs pour changer de rythme. Pas besoin de bouger, même on peut rester sur place et voir les choses autrement. C'est ce que vous propose cette 21e édition de la 4e de couverture. C'est un numéro double, une traversée spéciale été, pour mieux se retrouver en septembre, parce que en septembre, c'est la rentrée. Alors, pour les vacances d'été, on va prendre la clé des champs, on va s'aérer, respirer, rêver, ouvrir les portes et les fenêtres, sortir dans les jardins, à la plage, à la campagne, renouer avec la nature, en allant vers elle ou en la faisant entrer dans nos murs. Et comme la vie culturelle ouvre la voie cet été, on va lui emboîter le pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend cet été? Quel est le programme de cette 4e de couverture spéciale été? Eh bien, on verra d'abord tout ce qui a lancé la saison. Les événements qui ont renoué avec la vie culturelle vivante et non plus figée sur écran, et des événements qui se prolongeront tout l'été. On ira au MUMA, au Havre, rencontrer Jean-Marie Châtelier, le réalisateur, qui a filmé Philippe de Gobert en plein travail. On écoutera Raphaël nous lire quelques extraits de la conférence pour enfants que Gilles Tiberghien a consacrée aux cabanes, dans les bois, dans les arbres. Et on piochera quelques idées de sortie en plein air pour l'été. Alors, en route pour la 4e de couverture de l'été, et n'oubliez pas vos chapeaux de paille et vos lunettes de soleil. La reprise de la vie publique et de la vie culturelle en juin a remis à l'honneur les activités de plein air Covid oblige. Toutes les programmations se sont emparées de la vie au grand air, parfaitement raccord avec la green attitude qui est bien dans l'air du temps. La preuve, c'est que l'ouverture fin juin de la tour Luma de Franck Géry à Arles a fait sensation. On sait que cet architecte a signé des œuvres spectaculaires et inventé un nouveau chapitre dans l'histoire de l'architecture. Le musée Guggenheim à Bilbao ou la fondation Louis Vuitton à Paris sont des réussites incontestables. Mais l'inauguration de la fondation Luma a fait débat en reposant la question épineuse : quelle est la place de la nature dans ce projet ? Pour l'architecte, c'est évident, elle est au centre de sa création qui lui rend hommage par ses formes et ses matériaux, par la place qu'elle occupe à l'intérieur des murs grâce aux artistes qui ont fait entrer des plans d'eau, le mistral sonorisé, les plantes de la Camargue qui s'invitent dans l'exposition Prélude. Mais pour ses détracteurs, la tour argentée impose à des kilomètres à la ronde sa verticalité effrontée, 56 mètres de hauteur, qui heurtent le regard et altèrent le paysage ou le détruisent. C'est que notre conscience écologique est exacerbée et la vie culturelle ne cesse d'innover dans ce sens. Ainsi, le lancement de la saison a été plus vert que jamais. Notre ministre de la Culture a fêté la réouverture des musées et l'ouverture de la saison estivale dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Et quelques jours après, la 18e édition des Rendez-vous au Jardin était lancée partout en France. En Normandie, 120 parcs publics ou privés ont proposé des rencontres sur le thème de l'année, la transmission des savoirs, avec des jardiniers, des paysagistes, des botanistes et des amoureux de la nature. Le musée d'Orsay, lui, a consacré pour la première fois une exposition entre science et art, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, en confrontant les découvertes scientifiques à leur représentation artistique sous un titre éloquent, Les origines du monde, attention au pluriel, et l'invention de la nature au XIXe siècle. Dessins, peintures, sculptures, herbiers illustrent les théories révolutionnaires de Darwin, d'abord décriées comme des extravagances d'un savant fou, avant d'ouvrir la voie à l'émerveillement des artistes devant les mystères de la nature. À Château-Thierry, on a célébré un autre inventeur de l'émerveillement devant la nature. C'est Jean de La Fontaine qui aurait eu 400 ans le 8 juillet. Il n'a pas inventé la nature, évidemment, mais il a inventé une nouvelle manière de la regarder et d'en parler. Poète virtuose, moraliste audacieux, le fabuliste a signé de sa plume brillante et acérée plus de 250 fables et quelques contes licencieux et invité dans ses textes une véritable arche de Noé, un corbeau, un renard, mais aussi des souris, des écrevisses, des singes, des lions, une fourmi, une cigale, des huîtres et des plantes de toutes sortes, des parcs, des forêts, des jardins, comme celui justement du jardinier et son seigneur, qui commence ainsi. Un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plan vif fermé cette étendue. Là croissait à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolée. Et bien voilà, toute la magie du verbe de La Fontaine est là, quand il mêle avec malice le bouquet d'un amoureux avec les légumes les plus simples, dignes d'un panier de ménagères de retour du marché. Et cet éloge des plantes domestiques nous donnera peut-être l'envie de relire l'étude si sensible qu'Alain Corbin a consacrée en 2018 à la fraîcheur de l'herbe, à travers des textes de Ronsard, de Georges Sand, de Lamartine ou de René Char. Ou alors retrouver l'entretien qu'il a donné dans le numéro 13 de Relief, la revue semestrielle transdisciplinaire dédiée à la nature, à l'aventure et à l'exploration. Et ce dernier numéro explore tous les aspects des prairies, cet espace purement végétal, aux côtés de géographes, de philosophes, de biologistes ou d'historiens. Si La Fontaine, l'ancien maître des eaux et forêts de Château-Thierry, a décrit avec tant de grâce la nature, il a su faire parler avec beaucoup d'esprit tous les animaux de son bestiaire, des plus gros, un éléphant, un bœuf, aux plus petits, une fourmi, une abeille, un moucheron et des araignées. Des araignées qui parlent. Mais quel bruit peuvent bien faire des araignées? Et ça nous a fait penser à une musique envoûtante qu'on a découverte au printemps, une musique qui tombe du ciel, qu'on n'a pas eu identifié sur le coup. C'était ça. C'est quoi cette musique cristalline? Eh bien, tout simplement, la musique des toiles d'araignée. Des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ont traduit les sons émis par les toiles d'araignée pour un plasticien envoûté par les constructions aériennes des aranéides. C'est Thomas Saraceno, le plasticien argentin qui s'est établi à Berlin. Il est invité dans le monde entier pour installer ses créations, comme il l'avait fait il y a 3 ans avec On Air à Paris, au palais de Tokyo. Et dans cette exposition, l'artiste invitait le public à repenser poétiquement notre manière d'habiter le monde et à s'interroger sur les défis posés par l'anthropocène, un mot savant qui définit le monde actuel, impacté par les activités humaines, la pollution, le réchauffement, le pillage des ressources naturelles, etc. Une démarche artistique pour éveiller les consciences vers plus d'harmonie avec la nature. Voilà un très beau projet. Un autre artiste nous invite cet été à repenser poétiquement le monde. C'est Philippe de Gobert, le photographe belge, invité au MUMA, au Havre. Le titre de son exposition, « Du merveilleux en architecture au conte photographique », est une belle promesse. C'est d'abord la découverte de quelques utopies en architecture, sorte de musée imaginaire du photographe qui invente les planches pédagogiques de construction de poètes rêveurs. Du palais du facteur cheval à la fusée de Zétoile, le fou de poésie qui voulait se propulser sur la lune grâce à la force poétique des vers d'Aimé Césaire. Philippe de Gobert joue avec l'illusion du réel. Illusion qu'il poursuit dans la deuxième partie de l'exposition puisqu'il revendique toutes les libertés et la distance qu'un poète est en droit de prendre avec l'histoire et la réalité. Et le visiteur découvre alors dans son conte photographique une évocation poétique du Havre et de sa reconstruction à travers une trentaine de grands tirages réalisés à partir des maquettes construites méticuleusement par ce bricoleur génial. Pour mieux comprendre le processus de création de Philippe de Gobert et pénétrer dans son univers, Jean-Marie Châtelier, le réalisateur bien connu des Havrais, a posé sa caméra à Bruxelles pendant 5 jours, avec la délicatesse qu'on lui connaît, et on l'a rencontré pour en savoir plus sur l'artiste belge.
Ce qui est assez singulier de la part de cet artiste, c'est qu'il fait tout lui-même, de la conception jusqu'à l'encadrement même de ses photos. Et donc le fait de pouvoir maîtriser de A à Z la chaîne de fabrication, ça lui offre une vraie liberté et on a l'impression qu'il est habité par ces images qu'il est en train de fabriquer. Et il est effectivement comme un enfant qu'on surprendrait dans sa chambre en train de fabriquer des univers très singuliers, très personnels, très intimes.
Votre recours au texte de Bachelard, vous l'aviez réfléchi avant ou c'est venu nécessairement en découvrant son travail?
Alors c'est un texte que moi j'ai découvert jeune, quand je suis arrivé à l'école d'archi à Rouen en 89. On a eu 2 grands textes qui nous ont marqué en tant qu'étudiants. C'était un texte extrait d'un recueil de conférences d'Heidegger et puis la poétique de l'espace de Bachelard. Et moi c'est un livre qui n'est jamais très très loin. 35 ans plus tard, je continue à plonger vraiment dedans. Quand c'est comme un amer pour un marin un peu paumé. Et quand j'ai découvert son travail, toute cette réflexion sur la miniaturisation, la dilatation de l'espace, ça a forcément fait tilt. Et du coup, je me suis replongé dans ce texte de Bachelard qui correspond très étrangement à son travail.
On comprend mieux le sous-titre du film de Jean-Marie Châtelier, « La poétique de l'espace », qui reprend celui du livre de Gaston Bachelard, paru en 57. C'est bien une réflexion sur les espaces rêvés, les humbles logis, les nids, les coins que l'on habite enfant et qui gardent le goût du bonheur éternel. Ces lieux qui renvoient aux petites maisons de carton des jeux d'enfants, écrit Bachelard. Eh bien, ces petites maisons de carton, ce sont des cabanes en quelque sorte. Et les cabanes, c'était au cœur de la conférence que Gilles Tiberghien, le philosophe spécialiste du land art et de l'art dans le paysage, a donné pour des enfants à l'IMEC le 17 novembre 2018, un texte qui est édité chez Bayard. Eh bien, c'est le moment d'ouvrir ce texte, d'ouvrir notre parenthèse littéraire avec Raphaël.
De la nécessité des cabanes, Gilles Tiberghien. Les cabanes, on s'y abrite et on y voyage. Elles nous protègent et nous exposent à la fois. On les trouve souvent dans la nature, mais aussi en ville, dans des lieux plus ou moins retirés, où les SDF peuvent espérer dormir en paix. Les cabanes nous permettent de mieux vivre enfants comme adultes. Nous avons tous besoin de construire des cabanes. C'est ce que démontre avec humour et poésie Gilles Tiberghien dans ce formidable texte plein d'originalité. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et la première chose que je vous montre, c'est la photo d'une cabane prise sur le bord de la Loire. C'est une cabane dans un arbre, comme je les aime particulièrement. En essayant de vous en parler, de vous parler des cabanes en général, je dois dire que je prends un risque, celui de ne plus savoir comment faire. Parce que vous en savez beaucoup sur la question. Car l'enfance est une période privilégiée où l'on rêve beaucoup de cabanes. Vous me direz que le risque dont je parle n'est pas bien grand puisque j'ai moi-même été enfant, mais justement, c'est un peu comme dans certains contes de fées. Une fois qu'on est sorti de l'enfance, on ne sait plus vraiment comment y revenir, car on a perdu le chemin qui y mène. Pour y parvenir, on a souvent besoin d'un guide. Et quel meilleur guide que les enfants pour faire revivre l'enfance en nous. À votre âge, vous ne construisez pas toujours des cabanes parce que le rêve peut aussi vous suffire, ou disons, l'imagination, à partir du récit de ceux qui ont construit leur cabane et qui y ont vécu. C'était le cas de l'écrivain Jack London, l'auteur de L'appel de la forêt, qui raconte comment, à 20 ans, il est parti dans le nord-ouest du Canada, ce qu'on appelle le Klondike, du nom de la rivière qui y coule, pour y chercher de l'or. Là-bas, il habitait dans une sorte de cabane. London n'a jamais trouvé un gramme d'or. En revanche, il a ramené des pépites d'un autre genre. Des récits, des histoires, que ces prospecteurs venus des quatre coins de l'Amérique du Nord, mais aussi d'autres régions, lui ont racontées. Pour lui, les mots étaient le véritable or, les mots avec lesquels il a d'ailleurs fini par devenir célèbre et gagner beaucoup d'argent. Les Américains, qui étaient des pionniers, récemment débarqués sur un continent qu'ils ont considéré comme nouveau, ce qu'il n'était que pour eux, car il était habité depuis très longtemps, ont inventé toutes sortes de façons de construire, vite et bien, parce qu'ils se déplaçaient tout le temps à la recherche de nouvelles terres, et abandonnaient chaque fois leur maison. Ainsi, ils avançaient progressivement vers l'ouest, vers des territoires qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ces façons de faire sont très spécifiques et récentes, et elles ont profité de l'expérience de ceux qu'on appelle des architectes. Depuis des siècles, les architectes ont appris à construire. Toute la question est de savoir quand et comment ils l'ont appris. Cette question rejoint notre affaire de cabane. En consultant les dictionnaires, nous apprenons en effet que la cabane signifie « petite maison ». Et cette étymologie fonde d'une certaine manière l'idée que, à l'origine, les maisons sont des cabanes. Et il conclut sa conférence sur ces mots. Les cabanes sont des lieux psychiques plus que des lieux physiques, des lieux affectivement chargés, et nous nous en souvenons très bien. Ce sont des coques qui ont disparu, mais tout ce que nous y avons fait, pensé, imaginé, est fixé dans notre mémoire. La cabane préserve des atteintes du monde extérieur, ces images qui nous sont restées. Et c'est en effet une de ses fonctions, celle de préserver nos rêves les plus archaïques, qui constituent le terreau dans lequel nous allons ensuite puiser pour produire d'autres rêves. C'est pour cette raison que les cabanes nous disent toujours quelque chose, à n'importe quel âge de notre vie. Ce sont des réservoirs d'images dynamiques qui nous porteront toute notre vie.
Et merci à Franck Barcellini qui a signé la musique pour le film Mon oncle de Jacques Tati. Et pourquoi mon oncle ? parce que Gilles Tiberghien parle aux enfants et que Tati filme la tendre complicité du petit Gérard avec son oncle, Monsieur Hulot. Parce que ce film est aussi un plaidoyer plein de poésie pour les cabanes en ville, les nids douillets perchés sur les toits où les oiseaux chantent à l'envi, où le repère de Monsieur Hulot est tellement plus chaleureux que la villa moderniste et artificielle des parents de Gérard. Aucune chance de trouver sur ces murs blancs les araignées musiciennes de Thomas Saraceno, ni la magie du conte photographique de Philippe de Gobert et de ses maquettes faites de briques et de brocs, ni les rêveries de La Fontaine qui a tant chanté le pouvoir des fables. Si Peau d'âne m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Ça, c'est La Fontaine, livre 8, fable 4, en 1678. Et en 2021, qu'est-ce qui va nous faire rêver cet été 2021 ? Qu'est-ce qui va nous faire rêver ? Sans doute les surprises concoctées par Un été au Havre, autour du thème de l'illusion, de la transformation, du vrai, du faux, du merveilleux en quelque sorte. Et le faux palmier qui a poussé brusquement sur la digue nord est là pour nous inviter à la rêverie. La forêt qui semble avoir envahi le palais de justice poursuit ce rêve de nature dans la ville et sa place et son rôle. Si la nature s'installe en ville, les créations artistiques peuvent aussi se déployer dans la nature et Varengeville nous invite à les découvrir avec sa première édition du Festival de Land Art, Grandeur Nature. Quatre artistes plasticiens proposent durant l'été leurs installations insolites et souvent monumentales, réalisées avec ce que leur offre le terroir, du bois, des végétaux, des minéraux, des branchages, des matériaux modestes qui magnifient la douceur du paysage. Les concerts et les spectacles promettent aussi de beaux rendez-vous dans les jardins. Le festival Offenbach, par exemple, invite cet été Nathalie Dessay et Philippe Jaroussky à Étretat pour l'édition 21 intitulée « L'amour de la voix de l'amour » et qui a réussi à voir le jour contre vents et marées. La maison de Maurice Leblanc, le Clos Lupin, ouvrira ses jardins à la musique d'Offenbach. Après les fans de la série télévisée, place aux amoureux de la musique. Les amoureux de la musique et des mots trouveront sans doute de quoi se réjouir dans d'autres jardins parmi les 110 rendez-vous proposés pour la 20e édition des Rencontres d'été de Ouistreham à Caen, sans oublier Le Havre, Cabourg, Trouville. 100 auteurs à découvrir, des comédiens de renom et le bicentenaire de Flaubert au cœur de la programmation avec 30 événements célébrant sa liberté d'esprit. Le programme vous attend sur leur site. On retrouvera Flaubert entre ici et ailleurs, dans les jardins de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, une installation qui fait la part belle aux images, illustrant les récits de ses voyages et la mise en paysage de ses manuscrits. Pour relire tout simplement l'œuvre de Flaubert, on préférera peut-être les transats installés sur toutes les plages de Seine-Maritime autour des cabanes de Lire à la plage. 12 mini-bibliothèques gratuites du Havre au Tréport pour lire sous un parasol. Et si on veut écouter de la musique sous des pommiers, on ira évidemment à Coutances pour le 40e festival de jazz. Et si d'aventure vous voulez mettre le cap sur l'Amérique du Sud, on pourrait aller voir à la Philharmonie, à Paris, les quelques 200 clichés noirs et blancs que Salgado a consacrés à l'Amazonie en photographiant la forêt, les fleuves, les montagnes, le ciel et les peuples qui y vivent. Le grand photographe naturaliste n'a pas attendu que ce soit la mode pour s'engager dans le combat pour la planète. Il déclare ici son amour pour son pays, le Brésil, et alerte sur la fragilité de l'Amazonie avec ses clichés somptueux qui sont des manifestes aussi esthétiques que politiques. On pourrait aussi revoir le documentaire remarquable que Wim Wenders avait consacré en 2014 à ce photographe engagé, Le sel de la terre. Et au fait, pourquoi les photos de Salgado sont-elles exposées à la Philharmonie? Mais tout simplement parce qu'elles sont mises en musique et en son par Jean-Michel Jarre. De la musique, eh bien c'est ce qu'il nous faut pour clore cette 21e édition et continuer à rêver à l'été. Alors direction le sud, pour que le temps dure longtemps. Et c'est Feu Chatterton qui reprend la célèbre chanson de Nino Ferrer. Feu Chatterton qui a proposé cette version au printemps, en même temps qu'il sortait deux albums au titre bien en accord avec la green attitude dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Un monde nouveau, qu'on espère, et Palais d'argile, pour une architecture plus responsable peut-être.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été, la pelouse, il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps.
Merci Feu Chatterton, le groupe dont le nom rend hommage au jeune poète Thomas Chatterton. Bienvenue dans notre émission qui aime la littérature, évidemment. Merci Nino Ferrer pour cet éloge de la lenteur. Merci Raphaël, merci Joanne, merci Valentin. Et laissons le mot de la fin au poète photographe Philippe de Gobert qui fait lui aussi l'éloge de la lenteur.
Je crois qu'on doit... On doit justement, surtout dans notre société où tout va tellement vite, on doit réapprendre à prendre le temps de faire les choses. Et le travail de maquettiste, le travail de miniature, et le fait de construire des décors qui doivent être photographiés, etc., ça prend... Bon, c'est tout un... C'est une façon de repenser le temps, quelque part.
Je vous souhaite un bel été à tous et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la 22e édition.
C'était la 4e de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.